du Palais d'été et de la Chine en général. Donc, je voulais que cette année, le Salon du Livre parle de la Chine. C'est l'année de la Chine, on en a entendu parler depuis le mois de janvier. Et donc, je regardais une télévision chinoise, puisqu'avec Freebox, maintenant, on peut avoir des chaînes chinoises. Et il y a une chaîne chinoise, CCTVF, qui est en français. Et j'ai vu Monsieur Brizet qui a été interviewé là-bas par une Chinoise, parce que son livre, Le sac du palais d'été, a été traduit en chinois, ce qui n'est pas courant pour des livres français. Et oh, mais j'ai dit, c'est ce monsieur que je dois avoir pour ma conférence. Et donc après, j'ai fait mes recherches et j'ai pu entrer en contact. Nous nous sommes vus à Georges Brassens, voilà. Et puis, de fil en aiguille, nous sommes tous réunis ce soir. Donc, c'est dans le cadre du 15e salon de la Revue du Livre Ancien, organisé par le comité de quartier de Blossac-Saint-Hilaire. Et donc, on va remercier les gens qui nous permettent de faire cette manifestation, à savoir le conseil général, le conseil régional, la mairie qui est toujours fidèle, et puis l'espace Mendès France qui nous accueille pour la conférence tous les ans ici. Voilà. Donc, Monsieur Brizet est un journaliste et grand reporter, maintenant à la retraite, historien, passionné par la Chine. Il doit cette passion à un voyage qu'il a fait en 1979, un des premiers voyages touristiques de la Chine qui se réouvrait une deuxième fois, plus facilement que la première, on va dire, aux Occidentaux. Et donc, il a fait un voyage qui l'a séduit. Et qui a entraîné chez lui cette passion pour la Chine. Et depuis, il a fait de nombreux voyages, 15 voyages, je crois, en Chine, au Pékin, à Shanghai et un peu aussi à Kunming, dans le Yunnan. Et donc, son activité principale maintenant, il est aussi bibliophile, il collectionne les livres sur la Chine. Et donc, il les lit avec attention et ça lui permet de nous rapporter des livres. Donc là, il y a eu Le sac du palais d'été, Les Sœurs Song, la saga des Sœurs Song. Voilà. Et puis, dernièrement, le roman de Pékin, qui est un livre agréable à lire, parce que chaque chapitre, c'est une petite aventure, une petite anecdote sur Pékin. Voilà. Mais je vais maintenant lui passer la parole pour qu'il nous parle du sac du palais d'été. Et je le remercie beaucoup d'être venu nous voir ici pour nous parler de ses passions.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Je vous remercie d'être venu si nombreux ce soir. Bien, oui, pour compléter un petit peu la présentation gentille et élogieuse, écoute, je suis donc historien de formation, je suis devenu journaliste, grand reporter, et en 1979, avec ma femme ici présente, nous sommes allés faire un voyage organisé par le musée Guimet. Et c'était, comme l'a souligné, le premier voyage touristique qui était autorisé à se rendre en Chine. Avant, c'était des voyages officiels ou semi-officiels, des invitations. Là, nous étions des touristes. Et nous étions une trentaine de privilégiés. Et j'avais bien préparé mon voyage, enfin je pensais, j'avais lu les livres qu'il fallait avoir lus, je pensais comme celui d'Alain Perfit qui était déjà sorti, Quand la Chine s'éveillera. Et ce voyage, je me suis retrouvé avec des gens, des conservateurs de musées, et je me suis aperçu que j'en savais, même si j'avais bien préparé mon voyage, du moins je le croyais, 10 fois moins qu'eux. Donc ça m'a incité, c'est une grande leçon d'humilité, et ça m'a incité à en savoir plus. Et ce voyage, pour moi, est une révélation. Mon cœur et mon esprit sont restés en Chine de ce moment-là, et j'ai décidé d'y retourner le plus souvent possible. Et en l'an 2000, j'étais à Pékin, et j'ai visité ce que vous avez vu, le palais d'été, l'actuel palais d'été. Et au bout de la visite, je me suis dit, tiens, je vais prendre un taxi, je vais aller voir l'ancien palais d'été, le Yuanmingyuan. Et là, à l'époque, c'était une espèce de terrain vague, immense. Et en sortant de là, j'étais vraiment très déprimé parce que j'imaginais combien ce Yuanmingyuan, cet ancien palais d'été, avait été prodigieux. C'est-à-dire que c'était le Versailles chinois. En Chine, les palais, peu importe les constructions, on appelle ça des jardins. Yuan veut dire jardin, je vous le disais. Et j'en suis revenu, mais vraiment malheureux, pas fier d'être français, sachant que c'était les Français et les Anglais qui l'avaient détruit. Et donc le Yuan Mian était le Versailles chinois. Et de retour à Paris, je suis allé voir les deux libraires à Paris qui sont spécialistes de la Chine, Yu Feng, qui est rue Monsieur le Prince, et la librairie Le Phénix, boulevard Sébastopol. J'en ai dit, qu'est-ce que vous avez comme livre sur le sac du Palais d'été ? Il n'y en a pas. Et en anglais, il n'y en a pas. Alors je me suis dit, ben pourquoi pas moi ? Et voilà pourquoi j'ai écrit ce livre, Le sac du Palais d'été. Vous le verrez, c'est un gros volume de 600 pages. Alors il a eu le bonheur d'être traduit en chinois. Et là-bas, il s'est vendu déjà à 300 000 exemplaires. Donc, ce qui est un joli chiffre. On était invité à peu près deux fois par an à faire des cycles de conférences dans les universités. Alors, pourquoi est-ce que ce livre plaît aux Chinois ? Ben, c'est que c'est un livre qui, disons, qui dénonce la forfaiture des Français et des Anglais. Ça, ça plaît beaucoup aux Chinois. Ça flatte leur nationalisme, ça exacerbe leur xénophobie. Et à l'époque de la parution du livre, la traduction en chinois, c'était l'époque où, vous vous souvenez peut-être, il y avait un premier ministre japonais qui s'appelait Monsieur Koizumi qui refusait, qui allait se recueillir sur les tombes des criminels de guerre japonais. Et les Chinois, qui avaient un fort mauvais souvenir de la guerre sino-japonaise, qui a duré 10 ans, rappelez-vous le sac de Nankin, si vous ne savez pas très bien, on en parlera tout à l'heure, et disaient, regardez, les Japonais, ils refusent de reconnaître leurs responsabilités. Alors là, il y a un Français qui, lui, reconnaît le forfait de ses ancêtres. Et ce que vous avez vu peut-être, vous avez vu à la télévision, effectivement, au journal de 20h, enfin l'équivalent, on a vu, we can forgive, but not forget, nous pouvons pardonner, mais nous ne devons pas oublier. Alors ça plaisait beaucoup aux Chinois. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que suite à la traduction du livre Le sac du Palais d'été, ça donnait l'idée un milliardaire chinois, la troisième fortune chinoise, privée donc, de reconstruire le palais d'été, le Yuan Min Yuan, non pas à Pékin, mais dans le Zhejiang, c'est-à-dire au sud de Shanghai, à 250 km au sud de Shanghai, pour en faire à la fois un parc d'attractions, genre Disneyland ou Futuroscope, si vous voulez, et également des studios de cinéma. Un investissement de 20 milliards de yuan, 20 milliards de RMB, c'est-à-dire 2 milliards d'euros. Donc quelque chose de colossal. Et j'étais invité là-bas au mois de février à Pékin pour la présentation du projet. Et j'y étais encore il y a un mois et demi pour la première pierre de la construction, donc de cette reconstruction du Yuan Min Yuan. Voilà pour parler du livre. Bien, maintenant, pour dire... Pourquoi ce livre ? Bien. Alors, le sac du Palais d'été, comme je vous disais, c'était le Versailles chinois. Et c'était plus que ça. C'est comme je dis un petit peu dans mon livre, c'est que le Palais d'été, le Yuan Min Yuan, c'était à la fois Versailles, mais également le Louvre et la Bibliothèque nationale. C'est comme si les Prussiens, en 1870, avaient rasé Versailles, avait pillé le Louvre et incendié la Bibliothèque nationale. Donc, si vous voulez, c'est une perte inestimable pour la Chine, bien sûr, mais également pour le patrimoine mondial. Si vous voulez, nous sommes victimes de cette expédition. Alors, pourquoi cette expédition ? Mais qu'est-ce qu'on allait faire en Chine en 1860 ? Je vous le demande un peu. Bien, les Anglais voulaient ouvrir le marché chinois au commerce occidentale. Et la Chine était un pays fermé. Et depuis le XVIIIe siècle, ils ne savaient pas comment pénétrer en Chine. On ne pouvait pénétrer en Chine que par Macao, qui était un comptoir portugais, et également Canton, où quelques étrangers pouvaient s'installer. Et les Anglais ont eu l'idée... Alors, les Anglais achetaient en Chine du thé, des soieries et de la porcelaine. Et les Chinois n'achetaient rien, n'avaient besoin de rien. Alors les Anglais, qui donnaient de l'argent à la Chine, même de l'argent, de métal, se retrouvaient avec une balance commerciale déficitaire. Et comme les Anglais, c'est un peuple de commerçants, c'est pas comme les Français, Ils ont eu l'idée absolument géniale, diabolique, scandaleuse, d'exporter en Chine l'opium qu'ils produisaient aux Indes. D'où ce nom de guerre de l'opium. Donc, en 1840, et en contrebande évidemment, puisque le gouvernement, l'empire chinois ne voulait pas entendre parler de ces importations d'opium, mais il y avait des mandarins corrompus qui facilitaient l'introduction. Mais les Anglais en voulaient toujours plus, ils voulaient que ce soit légal pour pouvoir agir en toute facilité. En 1840, il y a donc eu la première guerre de l'opium destinée à forcer, si vous voulez, la Chine à ouvrir ses portes au commerce étranger, sous-entendu à l'opium. Bien. Les Anglais ont participé à cette première guerre, qu'ils ont gagnée, évidemment, avec leur puissance de feu. Il y a eu un premier traité à Nankin en 1842, et là-dessus, la France a signé également un traité, et les États-Unis, pour bénéficier de l'ouverture de 5 ports, dont Shanghai, au commerce occidental. Et les Chinois, eux, ils signaient, hein, ils disaient, bon, on signe, pour eux, ça, c'est le traité qu'ils avaient signé, ça équivalait à un billet de Monopoly. Et donc, il y a eu une deuxième guerre de l'opium, je l'appelle même la troisième. Alors, il fallait un prétexte pour décider les Chinois à plier devant la volonté de l'Angleterre. Il fallait un prétexte. On l'a trouvé, un bateau qui avait été anglais, battant pavillon anglais, qui a été arraisonné à Canton. Donc l'Angleterre a décidé de monter une opération donc militaire en 1860. Et pourquoi les Français? Mais qu'est-ce que les Français allaient faire là-dedans? Alors Napoléon III était très ami avec l'Angleterre, et la reine d'Angleterre, Victoria, 5 ans auparavant, avait visité Paris, ça s'était très bien passé. Il n'oubliait pas que Napoléon III avait vécu en exil pas mal de temps en Angleterre, et il s'était fait des amis là-bas, et il voulait vraiment avoir l'Angleterre comme allié. Alors, les Français ont dit, bon, si vous y allez en Chine, on y va, nous aussi. Alors, les Anglais, eux, ils étaient motivés, par le commerce. C'était des raisons commerciales. Alors pourquoi est-ce que les Français y allaient? Napoléon III, c'était pour évangéliser les masses chinoises. Le deuxième empire, Napoléon III, était un régime, une dictature, disons, catholique. Il s'agissait de plaire aux catholiques. Et donc, si vous voulez, c'est ça ce paradoxe absolument extraordinaire. Les Anglais y vont pour des raisons commerciales et les Français y vont pour des raisons idéologiques, religieuses. Donc, vous voyez, il ne faut jamais oublier ça. Bien. Alors, on se met d'accord tous les deux. Les deux pays se mettent d'accord pour une petite expédition. C'est une petite expédition militaire, 20 000 personnes en tout. 12 000 Anglais, Britanniques, 8 000 Français. Avec... donc, un commandant en chef britannique, un commandant en chef français, et également, à chaque fois, un ambassadeur britannique, un ambassadeur français. Alors, l'ambassadeur britannique sera le maître du jeu. C'est une figure, si vous lisez le livre, absolument extraordinaire, c'est Lord Elgin. Alors, c'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose. Lord Elgin avait un père qui avait pillé, enfin, qui avait acheté les marbres de l'acropole qui se trouve actuellement, vous savez, au British Museum sur les bords de la Tamise. Et donc, c'est son fils, Lord Elgin, qui est un diplomate, qui va prendre la tête de l'expédition. Il y aura un chef militaire, le général Grant. Côté français, il y a un général qui s'appelle le général Cousin Montauban. Et un diplomate, le baron Gros. Donc tout ce petit monde s'en va à partir au début de 1860. Les Anglais, c'était beaucoup plus facile pour eux parce qu'ils partent des Indes. Ils avaient donc beaucoup de troupes aux Indes et même de la cavalerie. Donc ils partent des Indes et ils vont jusqu'à Hong Kong où ils s'organisent. Les Français, ils partent de Toulon, de Lorient, de Brest... et la plupart des navires français font le tour par le Cap de Bonne-Espérance, Mais le commandant en chef, le général Montauban, il part de Marseille, il va jusqu'à Alexandrie, il traverse donc d'Alexandrie en passant par le Caire jusqu'à Suez, et de là, il prendra d'autres bateaux, ce qui est une route beaucoup plus courte et beaucoup plus agréable. Et les Français s'installent à Shanghai. Donc nous sommes en 1860, ils arrivent à Shanghai. Donc les Anglais sont à Hong Kong et les Français se retrouvent à Shanghai. Les deux se retrouvent, hein, le temps de s'organiser, les deux se retrouvent ensuite au nord, dans le golfe du Pechili, du Chili, et ils débarquent ensemble, non loin des forts de Daegu. Alors là, il y a une bataille où les Chinois se défendent comme ils peuvent, mais enfin, ils ne peuvent pas résister, bien sûr, à la puissance de feu des Occidentaux. Et en remontant le fleuve qui monte vers Tianjin, les Français et les Anglais se retrouvent à Tianjin, et il y a une bataille, notamment, vous avez vos souvenirs d'histoire, de Palikao. Alors, les Français et les Anglais, ils marchaient un jour, le premier, le lendemain, c'était la colonne britannique. Et ce jour-là, Palikao, c'était les Français qui étaient en tête, donc c'est eux qui vont se battre, d'où toute la gloire de la victoire. Et le général Cousin Montauban, qui va remporter cette victoire de Palikao, deviendra comte de Palikao, nommé par Napoléon III. Bien. Il se retrouve donc, après cette victoire, Pékin n'est qu'à une quinzaine de kilomètres. Et ils apprennent que la cavalerie chinoise, qui avait donc été vaincue à Palikao, était en train de se rassembler autour du palais d'été, du Yuanmingyuan, qui se trouve au nord-ouest de Pékin. Pas loin, hein, comme Versailles vis-à-vis de Paris, si vous voulez. Et les Anglais et les Français se donnent rendez-vous là-bas. Et chose amusante, il y a plein de choses curieuses, les Anglais se perdent en route. Ils avaient de mauvais guides, alors que les Français, ils arrivent là-bas, 7 heures du soir, au pied, donc, à l'entrée du palais du Yuanmingyuan. Il n'y avait pas de cavalerie chinoise, et ils n'ont pas résisté à leur tentation. Ils ont commencé à le piller. À piller le fameux palais. Alors les Anglais arrivent le lendemain, ils sont furieux, furieux, non pas de ce que les Français commençaient à piller, mais parce qu'ils avaient commencé à le faire sans eux. Bien. Ensuite, ils se mettent d'accord, on va piller convenablement tous les deux ensemble. Alors le pillage, les Anglais sont des spécialistes. Ils viennent, ils sont arrivés avec des carrioles, avec des officiers et des sous-officiers qui dirigeaient la manœuvre. En pis, ça, c'était très organisé. Les Français, c'était chacun pour soi, c'est-à-dire le foutoir le plus total. Et ils ont tout cassé, ce qu'ils ne pouvaient pas emmener. Donc c'est un pillage qui a duré 2 jours. Ça a été lamentable. Alors, vous n'imaginez pas quelle richesse contenait ce Yuanmingyuan, ce palais d'été. Il y avait, comme je vous le disais, c'était un musée, une bibliothèque, mais il y avait des tonnes de soieries dans des entrepôts, les richesses, mais colossales. Et les Français se sont très mal comportés, parce que ce qu'ils ne pouvaient pas emmener, ils le cassaient. Et ce qu'ils emmenaient, c'était des bêtises, quoi. Il y avait des peintures absolument extraordinaires qui dataient de l'époque Song, c'est-à-dire du XIIe siècle, XIe siècle. Il les brûlait, etc. Et ils emmenaient des babioles, des réveils, des coucous, dont raffolaient les Chinois. Enfin des... Et donc, les Anglais pillent énormément, beaucoup plus que les Français. Les Français, ils ramènent donc à Paris ils l'offrent à la marraine de l'expédition qui était l'impératrice Eugénie. Et ce qu'on a ramené l'armée française, ça se retrouve à Fontainebleau. Au château de Fontainebleau, il y a un musée chinois de l'impératrice Eugénie. Alors là, je vous y invite à y aller un jour. Alors, un petit conseil, il est souvent fermé parce qu'il suffit qu'un gardien se fasse porter pâle ou ait envie d'aller à la pêche. Et à ce moment-là, le musée est fermé. Mais si un jour d'été, vous avez l'occasion d'aller à Fontainebleau, téléphonez avant par mesure de précaution, et je vous assure que ce musée vaut la peine. Donc c'est tous les trophées ramenés par l'armée française et qui se trouvent à Fontainebleau. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de choses qui ont été pillées par les officiers, les hommes de troupes, qu'on a retrouvées en vente à Drouot dans les années 1860. Et les Anglais ont ramené beaucoup plus de choses. Je suis sûr que la reine d'Angleterre, dans ses différents châteaux, doit avoir des tas de trésors ramenés du palais d'été dont elle ne connaît même pas l'existence. Mais on en trouve d'autres au British Museum et également à Londres, à la Victoria, à Albert Gallery. Alors, suite à ce pillage du palais d'été, il y a une paix qui a été conclue à Pékin. Et à partir de ce moment-là, la Chine s'est ouverte au commerce occidental, puisqu'elle a été vaincue. Et l'opium a pu circuler librement en Chine. Donc les Anglais étaient satisfaits. Et les Français aussi, puisqu'ils ont pu envoyer des missions, des missionnaires, pour évangéliser les masses chinoises. Voilà, très grossièrement résumé, cette petite guerre coloniale. Alors, pour les Chinois, il y a eu le pillage, et quelques jours après, l'ambassadeur, le chef de l'expédition, l'origine, a voulu punir les Chinois parce qu'il y avait une ambassade, des officiers qui se promenaient avec le drapeau blanc, l'immunité diplomatique, qui ont été faits prisonniers par les Chinois et qui ont été maltraités, torturés. Il y en a quelques-uns qui sont morts. Pour se venger, donc, Lord Elgin a décidé de brûler le palais d'été qui avait déjà été pillé. Alors, les Français ont pillé, mais ce sont les Anglais qui l'ont incendié. Le général en chef français, le général Cousin Montauban, et l'ambassadeur français, le baron Gros, ont refusé de s'associer à donc cet incendie qui a détruit le Yuan Muan en 1860. Alors, Lord Elgin, le chef de l'expédition, qui était un homme extraordinaire par ailleurs, a voulu punir le souverain, l'empereur, à cause des tortures infligées à quelques Français, Anglais, et donc les prisonniers, les otages qui ont été maltraités. Et donc, il a décidé pour ça, donc, d'incendier le Yuan Muan pour punir l'empereur. Mais en fait, pour les Chinois, pour le peuple chinois, c'est la Chine qui l'a puni. Et très récemment encore, vous savez que... bien sûr, lorsque ça s'est mal passé, le fiasco de la flamme olympique à Paris, bon, les Chinois ont été humiliés et ils ont rappelé, tous les journaux chinois ont rappelé que la France en 1860 s'était très mal conduite. Vous voyez. Donc, ça, dans l'esprit des Chinois, ils ne l'ont pas oublié. Et dès qu'il y a des bisbilles diplomatiques, même en ce moment, si vous voulez, toute la presse chinoise. Ça fait partie de la propagande du régime, si vous voulez, rappelle cet épisode peu glorieux de notre histoire. Alors, pourquoi ce livre, j'y reviens, il n'y avait pas, si vous voulez, de livre sur le sac du palais d'été. Alors, vous allez me poser la question, peut-être, oui, il y a bien un livre de Pierre-Jean Rémy, le sac du palais d'été, prix Renaudot en 1972. C'est un roman. Et c'est un roman... et qui comporte deux paragraphes, un roman de 500 pages, qui comporte deux paragraphes seulement sur le sac du palais d'été, qui a donné le titre, si vous voulez. Donc ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je m'en suis expliqué à Pierre-Jean Rémy, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, pour les Chinois, ça leur reste en travers de la gorge, ils n'arrêtent pas donc de se référer à cet acte de vandalisme considérable qui s'appelle le sac du palais d'été. Voilà. Donc, on va y revenir avec vos questions pour aborder et élargir le sujet. D'autres sujets et élargir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Alors, il était à qui ce palais ?
C'était un palais impérial. Alors, il y a trois palais impériaux, disons, en Chine. La cité interdite que vous connaissez tous. Et la cité interdite, c'est là le centre du pouvoir, mais c'était très triste, c'est froid. Les empereurs avaient tendance à vouloir, comme Versailles, si vous voulez, abandonner le Louvre pour aller à Versailles. La dernière dynastie chinoise, qui est la dynastie des Tsing, dynastie Manchu, comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont décidé de s'installer à quelques kilomètres de Pékin, à l'écart, quasiment à la campagne. Et c'est pas un palais, c'était une centaine de bâtiments, une centaine de palais et d'entrepôts. Et là, vivaient là des milliers de personnes, eunuques, concubines, et l'empereur ou l'impératrice Cixi. Alors, le Yuan Minyuan a commencé à être construit, disons, en même temps que Versailles, c'est-à-dire sous Louis XIV et l'époque de l'empereur Kangxi. Et le grand empereur qui s'appelle Qianlong, qui a vécu au XVIIIe siècle, qui a régné pendant 60 ans, l'a considérablement développé. Et en 1860, c'est là que l'empereur vivait, disons, les trois quarts du temps. Il était obligé, lorsqu'il y avait des cérémonies rituelles, d'aller, par exemple, au Temple du Ciel, obligé d'aller à la Cité interdite de Pékin, il se déplaçait. Et le troisième palais, c'était à Chengde, et c'est-à-dire au nord de Pékin, à 200 km au nord de Pékin, en Mandchourie, de l'autre côté de la Grande Muraille. Et là, il y avait d'autres palais où ils avaient cessé d'aller. C'était surtout des relais de chasse, c'était pour la chasse. Voilà les trois résidences principales, les trois palais impériaux des Chinois. Donc, si vous voulez, le Yuan Minyuan, c'était la résidence favorite des empereurs, parce que c'était à la campagne. Et encore une fois, ils appelaient ça un jardin, parce que c'était des jardins absolument extraordinaires. Les empereurs Kangxi et Qianlong, au XVIIIe siècle, avaient l'habitude de sillonner, d'aller se promener en Chine, faire des grandes tournées impériales d'inspection. Et lorsqu'ils voyaient des sites qui leur plaisaient, des montagnes, des lacs, ils le faisaient reconstruire en miniature au Yuan Minyuan. Si vous voulez, c'est comme... Donc il y avait 40 sites qu'ils ont fait reconstruire dans cet immense parc qui leur rappelait le lac de l'Ouest, de Hangzhou, des montagnes. Alors tout était artificiel au Yuan Minyuan. Et si vous y allez à Pékin, vous pouvez maintenant, on peut visiter le Yuan Minyuan. Il y a des grands lacs qui n'existaient pas, qui ont été creusés, mais avec la terre de ces lacs, en creusant, on en a fait des collines. Et... c'était absolument un endroit absolument extraordinaire. Et c'était vraiment une merveille de l'humanité. Alors, est-ce que le Yuan Minyuan existerait encore si les Anglais ne l'avaient pas incendié, s'il n'avait pas été détruit en 1860? Nul le sait. En 1900, il y a eu des problèmes, que je vous disais. Ensuite, il y a eu la révolution culturelle, qui a eu... sous les années Mao, de 1866 à 1876. Et alors, est-ce que le palais d'été existerait encore aujourd'hui? Nul ne le sait. Mais dans la mémoire collective des Chinois, dès l'âge de 10 ans, 6e, ils sont au courant de ce forfait perpétré par les impérialistes, donc qui est la destruction du Yuan Minyuan. D'où une rancœur, un souvenir entretenu, encore une fois, par la propagande. Autre question, madame.
Alors, je vais juste vous demander de prendre le micro pour poser la question. Nous sommes en train d'enregistrer la conférence. Elle sera ensuite diffusée sur Internet, donc s'il vous plaît.
Il me semble avoir lu que l'empereur avait un ambassadeur auprès de Louis XIV, ce qui me semble déjà extraordinaire, et que cet empereur aurait demandé à ses architectes de s'inspirer du palais de Versailles.
Alors, le palais d'été, je ne vous l'ai pas encore dit, avait une particularité, c'est qu'il avait des palais européens. Sous la cour de Qianlong, dont je vous parlais, vers 1750, il y avait des jésuites qui étaient présents à Pékin, surtout des Italiens. Notamment, il y en a un que vous devez connaître de nom, c'est le père Castiglione.
Qui est... Isabelle aussi.
Pardon ?
François Xavier.
Ah non, 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 oh là là, ça n'a rien à voir. Là, monsieur, une petite parenthèse, François Xavier, c'est le grand jésuite missionnaire espagnol qui a tenté d'évangéliser le Japon. Bon. Son rêve, c'était d'évangéliser la Chine. Mais il est mort en face de Canton. Il n'a jamais mis le pied en Chine. Et c'était dans les années 1580. Vous voyez. Donc, ça n'a rien à voir entre... 1380. Et donc, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas François Xavier. C'est le père Castiglione, qui est un autre jésuite. Et il y avait différents jésuites à la cour de Qianlong, dont le père Castiglione, et il y avait des paysagistes. Il y avait même des Français, le père Attiret, qui était également un peintre. Castiglione était un peintre. Et l'empereur de Chine de l'époque, donc Qianlong, on lui avait montré, les jésuites lui avaient montré des plans, des reproductions, des estampes de Versailles. Et il s'est dit, oh, ce serait bien d'avoir la même chose en Chine. Donc les jésuites se sont transformés en architectes et ils ont construit des palais européens en marbre. Le palais d'été, le Yuan Minyuan, si vous allez aller à Pékin maintenant, vous verrez rien, sauf les ruines, bien sûr, qui restent, parce que tout le reste était en bois, ça a disparu, les ruines de marbre de ces palais européens, qui donc ont été détruits également en 1860. Donc, si vous voulez, votre question est tout à fait excellente. Donc, il y avait également des palais européens construits par les architectes européens. Et pour la petite histoire, il y a... je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un cinéaste chinois qui s'appelle Jackie Chan. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu. Il a écrit des films de kung-fu. Et l'année dernière, il a demandé à me rencontrer parce qu'il voulait faire un film sur des fontaines. Devant ces palais européens, il y avait des fontaines avec une douzaine de têtes d'animaux qui, toutes les heures, crachaient de l'eau. Et cette tête, en bronze, Jackie Chan voulait faire un film, un roman, pour essayer de toutes les retrouver. Alors, on sait qu'il y en a à Hong Kong, qui ont été vendus aux enchères, il y en a à Taïwan, et il y en a deux qui sont à Paris, dans la collection d'Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger, qui va être mise aux enchères au mois de février. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Donc, il va y avoir des belles choses, si vous voulez, à vente au mois de février, ces deux têtes d'animaux. Et alors, je vous disais qu'il y avait beaucoup de choses au musée de l'impératrice Eugénie à Fontainebleau. Il y en a également au musée Guimet, beaucoup de choses. Mais au musée Guimet, j'ai fait un tour de visiter le musée Guimet avec Jean-Paul Desroches, qui était le président, enfin disons le conservateur du musée Guimet chargé de la Chine. Et il n'a pas voulu me dire ce qui provenait du sac du palais d'été. C'est son métier de le savoir, il le sait. Mais il n'a pas voulu le dire. Moi j'aurais aimé ça. Oh, ça vient du palais d'été, le pillage, etc. Et tout simplement parce que tous les conservateurs du monde, ils se sont réunis il y a quelques années et ils se sont dit, si on commence à dire d'où la provenance, c'est leur métier de savoir, ils le savent parfaitement, on ne va pas s'en sortir. Les Italiens vont réclamer tout ce que Bonaparte a volé en Italie, bien, et ainsi de suite. Il ne resterait à Paris que l'obélisque de la Concorde, parce que c'était un cadeau de Mehmet Ali, un cadeau, donc on ne l'a pas volé. Mais sinon, si on mettait le doigt dans l'engrenage, il ne resterait plus rien. Et même, à la Bibliothèque nationale, il y a un superbe livre qui s'appelle « Les 40 vues » du Yuan Minyuan, qui ont été peintes par des artistes chinois, justement en 1750, sous le règne de Qianlong. Et c'est ce livre, « Les 40 vues du Yuan Minyuan », qui se trouve à la Bibliothèque nationale, ont été pillés, évidemment, par un colonel français, et qui l'a revendu ensuite à Drouot. La Bibliothèque nationale l'a préempté, donc vers 1862, et ça se trouve là-bas. Et lorsque M. Chirac est allé en Chine, à la fin des années croisées, vous savez, des années franc-Chine, il y a 3 ans, j'avais su, j'ai envoyé une belle lettre au président de la République, je lui ai dit, vous savez, ce serait fabuleux si la France restituait cet album des 40 vues du Yuan Min Yuan, la Chine serait ravie, ça coûterait pas cher à la France, on peut pas les voir, moi je les ai consultés de manière extraordinaire, par faveur, mais on peut pas les voir, c'est à la Bibliothèque Nationale, rue de Richelieu. Et évidemment, j'ai jamais eu de réponse de Monsieur Chirac. Mais les Chinois, si on leur rendait ça, ils seraient fous de joie. Mais encore une fois, les conservateurs du monde entier, oh là là, si on commence à... l'Égypte va réclamer, le Pérou va réclamer, le Mexique va réclamer, et ainsi de suite, on n'aura plus rien. Donc surtout, ne pas rendre ça, sinon on va rendre la main, le bras et tout. Donc... problème de ce côté-là. Donc, tout ça pour vous dire que les fruits des rapines du Yuan Min Yuan, du palais d'été, mais des milliers et des milliers de choses se trouvent dans les musées, même encore chez des particuliers. Mais il ne se passe pas de mois, dirais-je, à l'hôtel Drouot, sans qu'il n'y ait en vente des choses qui proviennent peut-être, on n'en a jamais la certitude, du sac du palais d'été de 1860. Autre petite question. Alors, la question qui m'a été posée tout à l'heure, c'est 1900. 1900, c'est tout à fait différent. Donc c'était une expédition punitive, vous voyez, et qui a été beaucoup plus sanglante. Je dirais que 1860, c'est quasiment une opérette, vous voyez, c'était 20 000 militaires au maximum, donc vous savez que dans une armée, il y a une intendance, etc., les combattants sont minoritaires. Sur les Français, 8 000 personnes, il y avait 4 000 combattants, mais les Anglais qui étaient 12 000, ça faisait 6 000 combattants. Donc c'était vraiment une petite chose. Mais en 1900, ça a été bien plus cruel. Alors, les deux expéditions ont quand même un point commun, quoi. Mais curieusement, les Chinois ne parlent pas de 1900. Ils cherchent. Mais de 1860, ça, ils en parlent énormément. Alors, pour vous décrire... Moi, ce qui m'a passionné dans ce livre, c'est que, donc je vous disais qu'il n'y avait pas de livre en anglais ni en français, sinon fragmentaire, et c'est un gros livre. La grande surprise, c'est que il a fallu que je fasse appel, bien sûr, à des sources étrangères, anglaises, et une chance extraordinaire, c'est qu'avec des sources, il y a eu des... très diverses. C'était donc des livres qui sont parus après l'expédition, écrits par les militaires, par des diplomates, ou des chroniqueurs, ou des interprètes. Et donc, il y avait toute une matière, si vous voulez, de livres français, une soixantaine, qui ont été publiés donc dans les années d'après, et même chose en Angleterre. Donc c'était une matière, pour un historien, c'est fabuleux, d'avoir une matière vierge, si vous voulez, inexplorée, inexploitée. Et donc il y avait 40aine de livres également, donc ça faisait une 60aine de livres qui ont raconté cette expédition. Et le livre, moi je trouvais que j'étais passionné par les gens qui en ont fait partie. Je vous ai parlé de Lord Elgin tout à l'heure, qui était le chef de l'expédition britannique, l'ambassadeur, était quelqu'un d'extraordinaire. Le baron Gros également était quelqu'un d'extraordinaire, c'était un humaniste, donc un ambassadeur. Parce que à chaque fois qu'il y avait, que l'armée anglo-française progressait, les ambassadeurs voulaient renouer le dialogue avec Pékin, et pour essayer de conclure la paix. Et ça ne s'est pas fait. Alors, c'est pour ça qu'ils sont allés jusqu'à Pékin. Il y avait le baron Gros, donc. Et le général Grant, le commandant en chef britannique, était quelqu'un d'assez extraordinaire aussi, un personnage assez folklorique, voire hilarant, mais talentueux. Et le général Cousin Montauban. Alors, le général Cousin Montauban, pour moi, c'est un grand soldat. Il avait fait sa carrière en Algérie. Et c'était un administrateur, comme administrateur des colonies. Et ça a été un bon chef militaire. Mais en rentrant à Paris, toute la presse hostile à Napoléon III est tombée sur le dos de cette expédition et du général Bordeaux en disant des pilleurs qui sont enrichis honteusement en pillant le palais de l'empereur de Chine. C'est scandaleux, c'est dégueulasse, etc. Bien. Alors que les Anglais qui ont pillé deux ou trois fois plus, ils sont rentrés en Angleterre, bravo, vous avez bien fait, ça s'est enrichi le pays, bravo. Là aussi, une différence de mentalité entre les Français et les Anglais, s'il vous plaît. D'accord. Donc, ce que je vous disais, c'est que les personnages, les acteurs de cette expédition sont des gens absolument extraordinaires. Et notamment, alors, ça, j'ai parlé des Anglais et des Français. Il y a également des chefs militaires français, anglais, autres que le général Grant et le général cousin Montauban. J'en parle amplement dans mon livre. Et surtout côté chinois. Côté chinois, l'empereur, lorsqu'il a su que les troupes étrangères arrivaient, il a quitté le palais d'été pour se réfugier à Chengde, donc ce troisième palais au nord, donc à 200 km au nord de Pékin, de l'autre côté de la Grande Muraille, en Mandchourie. Et il s'est réfugié là. Avec sa concubine, qui était la fameuse Cixi, vous savez, qui a régné jusqu'à sa mort en 1908. Et il a laissé son demi-frère à Pékin pour conclure, pour traiter avec les Anglais et les Français. Il s'appelle le prince Gong. Et le prince Gong est un personnage extraordinaire. Il est jeune, il a 28 ans, il est un petit peu porté sur l'opium, mais il a tout de suite compris que s'il ne cédait pas, l'Empire était condamné. L'Empire de Chine, qui est tombé en 1912, hein, avec l'établissement de la République, aurait parfaitement pu s'écrouler en 1860 suite à l'expédition étrangère. Et c'est le prince Gong qui l'a sauvé. Et le prince Gong est un personnage assez extraordinaire. Et il deviendra ministre des Affaires étrangères encore pendant une trentaine d'années. Et c'est un personnage que l'on retrouve dans l'histoire de la Chine. Donc, si vous voulez, c'est le livre, Le Sac du Palais d'été. Il vaut l'histoire en soi étonnante, je dirais extraordinaire, mais également avec des acteurs, les participants qui sont des hautes figures et qui sont des personnalités étonnantes. L'opium. Alors, ces guerres s'appelaient les guerres de l'opium. Comme je vous disais, le but de ces guerres de l'opium, c'était d'ouvrir la Chine au commerce de l'opium. Bien. Parce que l'opium, c'est exactement pareil, si vous voulez, de nos jours, pour les drogues. Ça ne coûte rien à produire. C'est pas très compliqué quand c'est autorisé à transporter et ça se vend très cher. Donc les Anglais ont imaginé comme les Chinois n'avaient besoin de rien. Comme je vous le disais, les Anglais achetaient en Chine des porcelaines, de la soie, du thé surtout, et les Chinois n'avaient besoin de rien. Les Anglais ont songé un moment que les Chinois pourraient leur acheter ce qu'ils produisaient dans les manufactures de Manchester. Les Chinois n'avaient besoin de rien. Et donc, cette idée géniale, si vous voulez, d'importer de l'opium. Donc, l'Angleterre du 19e siècle est, dirais-je, le premier pays narcotrafiquant au monde. Ce que la France fera ensuite en Indochine, vous savez qu'en Chine, il y avait en Indochine une régie de l'opium. Et de la même manière, et même à Shanghai, vers 1930, il y avait, dans la concession française de Shanghai, la police française et la police chinoise collaboraient pour organiser le trafic de l'opium, et les trafiquants d'opium donnaient au consul de France de Shanghai, chaque année, une somme d'argent rondelette, pour les récompenser de leur tolérance. Donc l'opium, c'est tout part de là, et ces guerres de l'opium. Et donc il y a eu deux principales guerres de l'opium, et c'est 20 ans, donc ça a duré de 1840 à 1860. Alors en 1860, donc, l'opium a pu être introduit légalement en Chine. Et ça le sera jusqu'en 1949. En 1949, avec l'arrivée de Mao Tse-tung au pouvoir et la fondation de la République populaire de Chine, l'opium a bien sûr été prohibé. Mais alors, l'opium, il ne faut pas croire que les Chinois étaient opiomanes à l'origine. Ils se servaient d'opium un peu comme un médicament, si vous voulez. Et donc, c'était très réglementé. Et c'est vraiment les Anglais qui ont eu l'idée diabolique d'importer l'opium en Chine, parce que c'était le péché mignon, le vice, disons, des Chinois. Les Chinois, ils ont deux vices, en gros, quoi. C'est l'opium et le jeu. Et ils continuent à jouer, l'opium est interdit. Et donc, ils ont réussi à importer l'opium. Et les sommes en jeu étaient considérables. Et il y a une chose qu'on n'imagine pas, c'est que l'Angleterre c'est un rocher avec de l'herbe, des moutons et de la houille. Bon, ça fait pas un peuple riche, or c'est un peuple très riche. Et la richesse de l'Angleterre, c'est son empire colonial. Donc, exploité, c'est la Chine, enfin l'Inde d'abord, etc. Et la France en a assez peu profité. Quand on parle de l'empire colonial anglais de l'empire colonial français, c'est tout à fait différent. Les Anglais, ils voulaient en tirer le maximum d'argent, intelligemment. Les Français, eux, ils se croyaient obligés de créer des hôpitaux, des dispensaires, des écoles, des routes, etc. Les Anglais, ils ne s'embarrassaient pas de ça, si vous voulez. Du coup, il y a beaucoup moins de problèmes à la fin de décolonisation en Angleterre qu'en France. La décolonisation anglaise, ils sont partis de l'Inde à temps. Bon. Et alors qu'en France, tous les jours encore, on en voit les séquelles avec l'Algérie, etc. Donc c'est deux mentalités tout à fait différentes. L'Angleterre est beaucoup plus, dirais-je, intelligente, si vous voulez. C'est des intérêts économiques et financiers. La France est toujours idéologique. Comme je vous disais, la raison de cette guerre de 1860 en Chine pour les Anglais, c'est le commerce. Pour la France, c'est l'émission. Donc, l'opium, tout tourne autour. Voilà.
Est-ce que Victor Hugo a écrit, alors, au retour du sac de Lucas, est-ce qu'il a écrit ?
Alors, votre question, madame, n'est pas naïve du tout. Alors, Victor Hugo était, à l'époque, en exil, en 1860, à Guernsey. Et il a écrit une fameuse lettre, superbe lettre, pour fustiger cette expédition. À Guernsey, en disant c'est scandaleux, le palais d'été qui était une des merveilles du monde. Alors là, si ce soir, en rentrant chez vous, je vous invite à vous brancher sur Internet et à lire cette lettre de Victor Hugo. Donc de 1860, qui est donc destiné à embarrasser énormément Napoléon III. Il faut savoir que Victor Hugo était, comme vous le savez, il appelait Napoléon le Petit, le plus grand, le plus redoutable adversaire de Napoléon III. Ce qu'on oublie, c'est qu'il aurait aimé, lorsque Napoléon III a pris le pouvoir, suite au coup d'État, est devenu empereur, il aurait aimé être nommé ministre. Bon, Napoléon III ne l'a pas nommé ministre, une grosse erreur de sa part. Bien. Et il a écrit une lettre absolument fabuleuse. Alors, à l'entrée du Yuanmin Yuan, actuellement, il y a à Pékin, il y a un petit musée, avec la lettre de Victor Hugo gravée dans le marbre, qu'on peut voir, je l'ai photographiée. Et cette lettre, bien sûr, elle figure dans mon livre, en bonne place, mais je vous invite à la lire parce qu'elle est absolument extraordinaire. Alors, Napoléon était à Guernsey et il était au courant de cette expédition parce qu'il a fait la connaissance d'un officier britannique qui avait ramené pas mal de choses de Pékin de 1860 et lui-même a acheté pas mal de choses. Dans sa maison, si vous allez un jour à Guernsey, ce que je vous conseille, il y a la maison de Victor Hugo qui s'appelle Hauteville House, qui est donc qui est une jolie belle maison avec une jolie vue, il y a plusieurs pièces qui sont complètement décorées de chinoiserie, des tentures, des estampes, tout ce qu'on, des rouleaux de peinture qu'il avait acheté donc à des officiers britanniques qui revenaient de Chine. Donc, si vous voulez, Napoléon qui fustigeait les pilleurs, il profitait un petit peu du pillage quand même. Mais bien sûr, Victor Hugo. Et alors, c'est pour ça que Victor Hugo est si connu, si admiré en Chine. Et moi, mon rêve, ce serait qu'on érige une statue de Victor Hugo à l'entrée du Yuanmingyuan. Et une statue de Rodin, par exemple, ce serait une chose possible. Parce que Napoléon, vous savez, a fait, Rodin a fait donc une statue de Victor Hugo. C'est en bronze, on peut en tirer un certain nombre d'exemplaires, 6 ou 8, et on pourrait en retirer, s'il y a des plâtres. Moi, j'espère qu'un jour, je réussirai, avec l'aide du président de la République, à ériger une statue de Victor Hugo qu'on offrirait à la Chine. Donc voilà pour Victor Hugo. Alors Victor Hugo, la lettre de Victor Hugo est immensément célèbre. Et comme je vous le disais, tous les Chinois la connaissent. Voilà. Madame.
Est-ce que vous avez eu aisément accès aux archives en Chine ?
Alors en Chine, non. D'abord, il y a actuellement... Et une association des amis du Yuanmingyuan qui regroupe tout ce que les gens concernés par le Yuanmingyuan, c'est-à-dire des paysagistes, des architectes, des archivistes. Et lors de la parution de mon livre en chinois, j'ai été convié toute une matinée à rencontrer ces immenses savants, etc. Et ils m'ont dit que leur recherche, en fait, c'était mon livre qui allait leur donner les points de départ des recherches qu'ils allaient entreprendre. Parce qu'il faut savoir que la Chine est une civilisation de l'écrit. Tout est consigné. Donc il y a certainement des archives considérables, mais les Chinois ne les ont pas exploitées. Et un peu pour les mêmes raisons que les Français. Et les Anglais, s'il n'y avait pas de livre sur le site du Palais d'été, c'est qu'il n'y a pas de quoi se vanter, c'est pas un haut fait historique, hein. Pas de quoi être fier, on a plutôt honte. Alors pour les Chinois, de la même manière, la Chine a été vaincue, défaite, humiliée, on ne tient pas à remuer les cendres, si vous voulez. Et alors, ce qu'ils m'ont dit, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils m'ont dit « on a beaucoup aimé votre livre », c'était sincère, je pense, c'était pas uniquement de la politesse, même si les Chinois sont des gens excessivement polis. Et mais ils m'ont dit, ça m'a surpris. Ils m'ont dit « le sac du Palais d'été, tel que ça s'est passé, c'est-à-dire le pillage, l'incendie, ça on le savait. Mais ce qui nous a le plus intéressé, c'est avant... Et après, avant les causes de la guerre, l'organisation de l'expédition, et après, comment, au retour de l'expédition, les Français et les Anglais ont été accueillis dans leur pays. Ça, on ne le savait pas. Et moi, je m'en doutais pas. Et lorsque j'ai eu des rencontres avec mes traducteurs chinois, ils étaient 3, je leur ai dit, c'est un gros volume, là, il y a 600 pages, je ne sais pas si vous aurez le temps, etc. Vous pouvez éventuellement couper au début. Parce que dans mon livre, on arrive à Pékin qu'à la page 257. Vous voyez, quelque chose comme ça. J'ai dit, ben avant, si vous n'avez pas le temps, si vous trouvez ça trop long, vous coupez. Ils n'ont pas coupé, heureusement. Parce que dans mon livre, ce qui a le plus plu donc, aux Chinois, c'était ce qu'ils ignoraient, c'est-à-dire le début, c'est-à-dire les origines de l'expédition et le retour, c'est-à-dire les conséquences de l'expédition. Donc, les archives chinoises, elles existent, mais ils m'ont dit qu'ils allaient s'y mettre maintenant pour essayer de... Mais encore une fois, les archives chinoises, tout est officiel, c'est très formel, si vous voulez. Mais donc, je n'ai pas eu accès, et personne encore. Mais ce serait le... Donc, il faudrait que les... C'est pas possible pour un étranger de se plonger dans les archives chinoises. Il faut d'abord que les historiens chinois débroussaillent le terrain et ensuite que les étrangers s'y mettent. Donc, si vous voulez, moi, mon livre est un peu partiel parce que, comme on dit en histoire, c'est le récit des vainqueurs. Je n'ai pas le récit des vaincus. Moi, j'ai le récit des vainqueurs, des Anglais et des Français, des chroniqueurs, des diplomates, des interprètes qui ont tous écrit des livres, quelques journalistes d'ailleurs, qui ont écrit des livres, des commentaires sur cette expédition de 1860, des Anglais, des Français, mais sur la Chine. Alors, il y a quelques historiens chinois qui s'y mettent. Maintenant, curieusement, ce sont des historiens américains d'origine chinoise qui enseignent en Californie, à Hawaï, à eux s'intéressent, comme ça, ils reviennent un petit peu au pays de sources, retour aux sources, ils reviennent dans leur pays, ils explorent un peu, ils exploitent les archives de leur pays. Alors je suppose que d'ici 10, 15 ans, on aura le point de vue des Chinois là-dessus. Mais encore une fois, mon livre, c'est le point de vue des vainqueurs, quoi. Même si parmi les vainqueurs, il y a ceux qui se félicitent de ce qui s'est passé, une grande victoire, bravo, et ceux qui ont écouté leur conscience en disant « c'est scandaleux, c'est lamentable, c'est une honte ». Et il y en a quelques-uns, donc, mais ce n'est pas une majorité, quelques-uns qui en 1860 n'étaient vraiment pas fiers. Les Français d'ailleurs, les Anglais, non, ils n'ont aucun scrupule. Alors si vous voulez, en France, on culpabilise un petit peu, on a honte, les Anglais, pas du tout. Alors là, moi on m'a dit que mon livre était traduit en chinois, mais il n'avait pas aucune chance d'être traduit en Angleterre. Aux États-Unis, oui, parce que les universités américaines pourraient être intéressées, mais en Angleterre, non. Les Anglais ne battent pas leur couple, ils n'ont pas honte, ce qu'ils ont fait, c'est très bien. C'est un peuple élu, et tout ce qu'ils font, c'est très bien. Donc c'est la différence, encore une fois, entre la France et l'Angleterre.
Les historiens n'ont peut-être pas écrit, les historiens chinois n'ont peut-être pas écrit sur le sable de Pékin, du palais d'été, mais est-ce qu'il n'y a pas eu de romans qui ont été écrits par des Chinois ?
Par des Chinois, non. Alors vous savez que des romans, il y en a eu même récemment. Moi, mon livre est un livre d'histoire. Mais si j'avais voulu écrire un roman, c'est-à-dire une histoire romancée, j'en aurais vendu 10 fois plus.
De l'époque des écrivains chinois du 19e siècle.
Non. 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 En Chine, non. Mais peut-être que ça viendra. Non. Non, il y a eu le seul livre que l'on... C'est un livre écrit encore une fois par un historien d'origine chinoise vivant aux États-Unis, enseignant dans une université américaine, donc qui a examiné cette période donc des guerres de l'opium avec le sac du palais d'été. Mais encore une fois, non. Mais lorsque j'ai rencontré cette matinée, c'était il y a 3 ans maintenant, à Pékin, tous ces savants là sur le Yuan Minyuan, ils ont tous décidé de relancer des travaux, de brancher des étudiants. Et même on m'a dit qu'il y avait des professeurs de Sorbonne qui avaient incité des étudiants à faire des thèses maintenant sur pour élargir le sujet. Donc, il y aurait une belle thèse à faire pour un étudiant, pour un historien. Ce serait donc le retour de l'expédition, ce que moi je ne fais qu'éplorer dans mon livre. Comment Cousin Montauban a été accueilli en France, je vous le disais, mal. Et Napoléon l'a fait, l'a nommé sénateur, il voulait lui donner une rente. Et le Parlement, la Chambre et le Sénat s'y sont opposés. Donc ça, c'est typique aussi de la France, de ne pas rendre hommage à ses grands serviteurs.
Comment explique-t-on que l'empereur chinois n'a pas mis les forces nécessaires pour faire face, pour stopper la colonne alliée ?
Alors,
et surtout une colonne alliée sans appui logistique, vu qu'elle était perdue en terrain ennemi.
Sans appui logistique, les Chinois en nombre étaient considérables. La cavalerie chinoise que le général Cosa Montauban a affronté à Palikao, il y avait 30 000 cavaliers. Mais il faut savoir que ces cavaliers étaient armés de lances et d'épées et quelques mousquets qui faisaient pas de mal, sinon à eux lorsqu'ils explosaient. Ils avaient une artillerie un petit peu, mais jamais un obus chinois n'a touché les forces alliées, françaises ou anglaises. À Palikao, il y a peut-être eu 2000 Chinois tués, peut-être 4000. Combien de Français, combien d'Anglais? Ça se compte sur le doigt d'une main. Donc les forces, si vous voulez, c'est complètement disproportionné. Et les médecins, il y avait des médecins. Cette expédition, ils avaient, les Français avaient emmené des médecins, ce qui était une première dans une guerre. Vous savez qu'il y a eu les campagnes d'Italie où dès qu'on était blessé, on était condamné à mort. Et ça a servi de leçon. Et ils avaient emmené des médecins. Et les médecins militaires, donc, ils disaient, c'est la première fois que je soigne des blessures causées par des flèches. Vous voyez, c'est vraiment... Donc, l'armement des Chinois a été complètement dérisoire. Vous savez, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est exactement le cas. Il suffisait de quelques bataillons de soldats courageux occidentaux qui avaient une artillerie. Les Anglais avaient une artillerie. Les Français aussi, ils avaient amené des canons. Mais encore une fois, c'était une artillerie de campagne, pas une artillerie de siège, c'est-à-dire des pièces légères, hein. Et le problème pour les Français, qui dit artillerie, il faut tirer les canons. Donc il faut une cavalerie, il faut des chevaux. Et les Français ne pouvaient pas amener des chevaux à partir de France. On n'avait pas embarqué des chevaux à Brest ou à Toulon pour leur faire faire le tour du monde, là, par le Cap d'Espérance. Alors que les Anglais, ils avaient amené beaucoup. La moitié des forces anglaises étaient des Sikhs. C'est-à-dire qui promenaient d'Inde, qui sont des cavaliers redoutables d'ailleurs. Et de l'Inde, ils partaient de Calcutta ou de Bombay, et ils arrivaient à Hong Kong et ensuite à Chine. Là, la moitié du chemin était fait, vous voyez, même plus que ça. Bien. Les Français sont arrivés à Shanghai, ils n'avaient pas de cavalerie. D'où problème. Alors ils ont acheté à prix d'or tout ce qu'ils pouvaient trouver comme chevaux. Ils sont allés aux Philippines, au Japon. C'était assez comique parce que c'était des petits chevaux, quoi. Ça suffisait pas. Mais toujours est-il que les Français ont réussi à rassembler un millier de chevaux. Alors ils en ont conservé quelques-uns, disons une centaine pour les officiers, pour le commandant Montauban. Et tout le reste était affecté donc à tirer pour le transport, évidemment, et également tirer les canons de l'artillerie. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est un peu tragicomique, c'est les Chinois étaient courageux, et ils étaient en nombre bien supérieur, mais face à des puissances de feu occidentales, ils n'existaient pas. Si vous voulez, c'est comme si... vous mettez des zoulous avec des lances contre des... Pourquoi ?
Parce que c'est bien là qu'une armée européenne a été vaincue pour la première fois.
Oui. Oh. Plus tard. Mais à l'époque, non. Ou alors lorsque, également en Amérique du Sud, si vous voulez, dans la civilisation précolombienne... Mais donc, c'est ça qui est, y a un côté dérisoire dans cette expédition, si vous voulez, entre les forces occidentales super armées et organisées et bien commandées, et ces troupes chinoises, braves d'ailleurs, mais qui ne faisaient pas le poids sur le plan militaire. Monsieur, vous aviez...
Excusez-moi, je vais vous passer le micro parce que là, on enregistre.
Oui, simplement pour remarquer que la ville de Paris avait tout de même donné le nom de Palikao à une rue du 20e. Alors c'est assez amusant, parce que moi je l'ai connue, c'était une rue très obscure, vraiment. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue maintenant, mais c'était presque pauvre. Alors qu'évidemment, les victoires du Premier Empire, c'est Iéna, c'est... Là, alors, est-ce que pourquoi On a fait un petit peu quelque chose, mais on avait certainement un petit peu honte, quoi. Cette rue Palikao existe toujours, je crois.
Oui, je sais qu'elle existe, effectivement. Alors, le général de Montauban, aussi, il y a autre chose. C'est que à la fin de l'Empire, lorsque après Sedan, après la défaite de Bazaine, vous connaissez Sedan, Napoléon était prisonnier à l'époque, hein. Était fait prisonnier, Napoléon III. Et ils ont fait appel au général Cousin Montauban pour diriger donc les forces françaises restantes. C'était à l'époque un vieux monsieur, mais il avait conservé donc ça, un peu de sa gloire de commandant, parce qu'en 1860, il avait bien 62 ans, vous voyez, c'était plus un jeune homme. Donc en 1970, c'était plus un jeune homme à l'époque. Et donc, il a été rappelé, Cousin Montauban, pour... en fait, son nom véritable, il s'appelait Cousin. Et il a rajouté la particule de Montauban, et à la fin, on n'appelait plus que le général de Montauban. Si vous voulez, il s'est nommé noble lui-même, un petit peu. C'était un faux noble, c'était un peu un soldat de fortune. Si vous voulez. Et... Donc, alors lui, il ne s'est pas enrichi, Montauban, mais il avait un fils, capitaine de Montauban, qui faisait partie de l'expédition, alors on dit que lui, il n'était pas revenu les mains vides. Alors effectivement, je ne connais pas cette rue de Palikao qui est un peu sinistre, il devrait avoir une grande avenue, quoi, à Paris, mais encore une fois, ça montre bien que, pour ces deux raisons, il a été, en 1861, lorsqu'il est revenu, tout le monde lui est tombé dessus en disant « c'est le pilleur, c'est scandaleux, le voleur qui s'est enrichi ». Et ensuite, c'est la République. Hein. Bon, on n'allait pas honorer tellement le dernier défenseur de l'Empire. Voilà pour le comte de Palikao. Encore une petite question. Monsieur.
C'est une question naïve, là, parce que je n'ai pas très bien compris dans votre exposé, au fond, il y avait peut-être plusieurs objectifs possibles pour cette expédition. La cité interdite et d'autres. Pourquoi est-ce le palais d'été qui a été choisi ?
C'était tout à fait le fruit du hasard. Tout à fait le fruit du hasard. D'abord, je vous disais que cette expédition, elle a abordé au fort de Dagou. Il y a eu quelques batailles, la prise des forts de Dagou. Et à chaque fois, on pensait que la Chine allait capituler. Donc, ça allait s'arrêter là. Et les diplomates négociaient et ça ne marchait pas. Les Chinois les menaient en bateau, comme on dit. Et à un moment... En arrivant à Tientsin, on croit que la paix est faite, que la paix va être signée. Et c'est le désespoir dans l'armée, dans les rangs des militaires, qui se disent « Oh ben non, nous, on est venus, franchement, c'était pas la peine de venir, si on aurait su, on voulait à Pékin, Pékin. » Et lorsqu'il y a eu l'échec des négociations diplomatiques à Tianjin, toute l'armée qui reprend la main, si vous voulez, est ravie d'aller jusqu'à Pékin. Alors pourquoi le Yuan Minyan ? C'était nullement prémédité. Comme je vous l'ai dit, c'est que les Français et les Anglais apprennent que le restant des forces chinoises se sont regroupées autour du palais impérial de Yuan Minyan. Donc ils se donnent rendez-vous là, et pas à Pékin proprement dit. Alors Pékin a été épargné. Il n'y a qu'une seule porte. Les Français et les Anglais, surtout les Anglais, ont négocié l'ouverture d'une porte. Pékin était ceinturé de murailles, hein, avec des portes défensives, des énormes murailles. Il n'était pas question de les attaquer. Surtout, ils n'avaient pas l'artillerie nécessaire. Et Pékin a été épargné. Il y a une seule porte donc qui a été occupée par les Anglais et les Français, et c'était pour surveiller, pour contrôler un petit peu. Mais les Français, en 1860, n'ont pas occupé militairement Pékin, contrairement à 1900. Cela dit, ils ont visité la cité interdite, abandonnée donc par l'empereur et l'impératrice. Ils se sont promenés dans Pékin. Ils ont même acheté, ils sont allés... dans les magasins d'antiquités, les curio shops pour acheter beaucoup de choses, parce que tout ce que les Français et les Anglais ne pouvaient pas emporter, parce que ça leur plaisait pas ce qu'ils avaient payé, ils le revendaient sur place. Donc ils leur ont vendu beaucoup à leurs camarades militaires, mais également aux antiquaires du coin. Et les Français ont également ramené de Chine des choses qu'ils avaient achetées chez les antiquaires locaux à Pékin. Il y a eu un gros trafic. Parce qu'il faut savoir que l'armée est arrivée à Pékin vers le début du mois de septembre. La paix a été conclue vers le 20 octobre. Et immédiatement après, ils ont décidé de quitter Pékin parce qu'à partir du 1er novembre, il faisait trop froid. C'est plus possible de se promener, de se déplacer. La rivière était gelée. Donc le général de Montauban, comme les Anglais, n'avait qu'une idée, c'est de quitter Pékin le 1er novembre et pas après. Alors ils sont installés à Tianjin, à Tianjin, là, où ils ont laissé un corps d'armée. Et également, en attendant que la dette soit payée, parce qu'il y avait une dette également qui était prévue, colossale d'ailleurs, pour rembourser les frais de guerre. Il faut savoir que cette expédition de 1860, qui a coûté cher à la France, lui a sans doute rapporté davantage, si vous voulez, à cause de la dette chinoise pour rembourser cette expédition. Et ils ont laissé également des garnisons au fort de Dagou. Et ce n'est que quelques années après, plus tard, c'est-à-dire à partir de 1863-1864, que les dernières forces étrangères, françaises et anglaises, ont quitté Tianjin et les ports de Dagou. Donc ils ont eu le temps de rester, si vous voulez. Alors une partie des forces françaises sont restées. Alors l'autre partie est retournée à Shanghai. Il y en a une partie qui est retournée en France directement, mais pas par le Cap de Bonne-Espérance cette fois, mais par Suez, par la route la plus courte, c'est-à-dire Aden, le détroit de Malacca à Aden et Suez. Et d'autres troupes ont été emmenées dans la marine pour déjà en Indochine, parce que la France n'était pas intéressée par la Chine. C'était trop gros pour la France. Et on va laisser avec les Anglais, on ne va pas se battre avec les Anglais sur la Chine. Déjà, la France ne songeait qu'à l'Indochine. Donc, voilà. Donc, le sac du Palais d'Été, c'est vraiment un hasard de l'histoire, c'était nullement prémédité, nul ne pouvait prévoir que ça allait se terminer comme ça. Mais c'est un peu la faute des Chinois également, qui n'ont pas compris qu'il fallait céder tout de suite. C'est là où le prince Gong, dont je vous parlais tout à l'heure, s'est montré un grand homme d'État. Il a compris que s'il ne cédait pas aux exigences scandaleuses, dirais-je, des Occidentaux, c'était la fin de l'Empire. Et il a sauvé l'Empire. À ce moment-là, l'Empire a été prolongé de 50 ans, puisqu'il ne devait s'effondrer qu'en 1912.
Il n'y a pas eu de mouvement à l'intérieur de la Chine à l'occasion?
Non, c'était inconnu. Il y a une autre chose. C'est que, c'est une chose intéressante. Je vous disais que la dynastie régnante était une dynastie des Tsing, qui était une dynastie étrangère, une dynastie mandchoue. La Mandchourie, c'est au nord de la Chine. Et ils ont la dynastie mandchoue des Tsing s'est installée, a succédé aux Ming, qui était une dynastie chinoise. Et en 1644, les Mandchous c'est une histoire un peu compliquée, sont arrivés en Chine et ont pris Pékin et sont installés. Ils ont pris la place de l'empereur Ming, qui était une dynastie décadente en 1644. Et les Chinois ne se reconnaissaient pas. Et par exemple, les Anglais et les Français, ils ont embauché des coolies. Des coolies chinois pour transporter les choses, si vous voulez, pour servir un peu à tout. Et lors des forts de Dagou, ils leur ont demandé, lors des batailles, de transporter les échelles pour grimper le long des murs. Et à la grande stupéfaction des Français, les Chinois, non seulement ils portaient les échelles, mais ils grimpaient dessus, ils commençaient à se battre avec les défenseurs chinois ou mandchous. Il n'y avait aucun esprit nationaliste à l'époque. Ça a bien changé depuis, vous voyez. Donc tout simplement parce que c'est une dynastie étrangère, ils ne sentaient pas du tout, c'était l'occupant. Donc, et lorsque, à la fin, de le jour de la signature du traité, il y a une grande parade dans Pékin, et avec les troupes françaises, les troupes anglaises d'abord, et le lendemain, les troupes françaises ont défilé dans Pékin pour aller signer officiellement le traité de paix. Et tout Pékin, parce qu'ils sont très curieux, les Chinois, tout Pékin était là, massé pour regarder les troupes anglaises et les troupes françaises défiler. C'était tout juste s'ils applaudissaient pas, parce que c'était un spectacle. Il n'y avait pas du tout d'esprit de revanche. En fait, l'esprit de revanche a été entretenu par la propagande d'une manière relativement récente, si vous voulez. Mais ça, c'était en 1860. Ça va beaucoup changer après. Je vous parlais tout à l'heure de la guerre, de la deuxième guerre entre la Chine, la France et la Chine en 1884-1885, et qui s'est terminée d'une manière humiliante par le traité de Tianjin, au détriment donc de la Chine, qui a dû céder à la France la suzeraineté de la Nam du Tonkin. Et Sun Yat-sen, donc, est le premier président de la République de Chine, en 1912, après la chute de l'Empire, a dit que sa vocation de révolutionnaire était née justement de cette humiliation. Il a dit ça, plus jamais. S'écraser devant des puissances étrangères comme la France. Et il faut dire que la Chine a été humiliée, disons, de 1840 à 1849. Tous les Chinois, moi, la faiblesse de connaître beaucoup de Chinois et d'avoir beaucoup de Chinois, vous ne pouvez pas savoir comme, premièrement, ils connaissent l'histoire de leur pays, et la géographie d'ailleurs, beaucoup plus que... Et ils en sont fiers. Ils sont très fiers de la Chine. Ils savent, parce qu'on leur apprend dès l'école primaire, qu'ils ont une civilisation absolument extraordinaire, la plus vieille du monde. 4000 ans, voire 5000 ans. La civilisation chinoise est la seule civilisation qui dure encore de nos jours. On a connu Rome, on a connu la Grèce de Périclès. D'abord la Grèce, Rome, on a connu l'Égypte, on a connu les civilisations précolombiennes. Toutes les civilisations sont mortelles, comme le disait Valéry. Hein. Nous savons maintenant que nous sommes civilisation, nous sommes mortels. Eh bien, la civilisation chinoise est la seule au monde. Et de tout temps, les Chinois se sont considérés comme l'empire du milieu et l'empereur le fils du ciel. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'eux au monde. Et ça dure encore un petit peu aujourd'hui. Et ils se sentent au centre du monde, le plus puissant. Et ils n'ont pas tort, parce qu'on ne se rend pas compte de la puissance chinoise. On n'a pas encore réalisé en France que dans 10 ans, 15 ans, la puissance de la Chine. Bien. Et tous les dirigeants chinois ont en travers de la gorge cette humiliation, ce siècle d'humiliation de 1840, la première guerre de l'opium, jusqu'à 1849, jusqu'à 1949, la prise du pouvoir pour Mao Tse-tung. Et Mao Tse-tung, pour eux, reste le grand homme parce que c'est lui qui a rendu sa dignité à la Chine, pour tous les Chinois. Alors Mao Tse-tung, on pourrait en parler énormément. Pour moi, c'est quelqu'un... c'est un monstre, la révolution culturelle. J'en parle pas de ça avec mes amis chinois. Mais les Chinois sont très fiers. Et contrairement à 1860, maintenant, ils sont complètement nationalistes. Ils ont toujours été xénophobes. Les Chinois ont toujours été xénophobes. Alors, aussi loin que l'on remonte, on trouve la xénophobie chinoise, le mépris des étrangers. Eux sont supérieurs aux étrangers. Bien. Et maintenant, ils sont nationalistes. Mais en même temps, ils sont pacifiques. La Chine a toujours songé à se défendre, mais pas à lancer des guerres à tort et à travers. Et s'ils s'arment, c'est plutôt pour se défendre que pour attaquer. Mais actuellement, tout peuple est déterminé par son passé. Mais pour comprendre ce qui se passe en Chine actuellement, sur le plan politique, il faut se référer au passé. Alors vous savez que le 1er décembre, le Premier ministre Wen Jiabao devait venir en France, à Lyon, et qu'il a annulé, il avait décidé de rencontrer à Paris une quinzaine de Français pour parler. J'étais invité par l'ambassade. Et hier, j'ai reçu une belle lettre de l'ambassade me disant que le voyage de M. Guan Jiabao étant annulé, l'invitation tombait à l'eau. Et pourquoi est-ce qu'il ne vient plus? C'est qu'à cause du Tibet. Parce que M. Sarkozy a dit qu'il allait rencontrer à Gdansk, là en Pologne, le Dalai Lama. Et alors, pour punir la France, le Premier ministre chinois, qui devait venir à Lyon et à Paris, donc le 1er et le 2 décembre, a annulé son voyage. Alors, le Tibet, par exemple, je n'ai jamais rencontré un Chinois qui disent « Oh, le Tibet, c'est une question difficile. » Pour eux, le Tibet appartient à la Chine à 100%. Ça ne se discute pas. C'est comme si, pour la France, vous disiez que la Bretagne n'appartenait pas à la France. Le Tibet appartient à la Chine. Ils entendent. Et on peut pas. Il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder avec les Chinois. C'est le Tibet, c'est Taïwan et c'est Mao Tse-tung. Et de retour d'un voyage au Tibet, je dîne à Pékin avec des amis chinois qui me demandent, on parle anglais, si j'avais aimé le Tibet. Et j'ai eu le malheur de répondre, it is a very nice country. C'est un pays très intéressant. It is not a country, it is a province of China. Ce n'est pas un pays, c'est une province de la Chine. Mais c'est vraiment mis en colère, là. Je me suis fait tout petit. Donc, il y a ce nationalisme chinois, si vous voulez, ça fait partie de la revanche. Alors, l'humiliation chinoise commence en 1840 avec la première guerre de l'opium. Elle culmine en 1860 avec le sac du palais d'été et ensuite l'occupation étrangère et surtout également contre les Japonais qui ont occupé la Chine pendant une dizaine d'années de 1937 à 1945. Disons qu'ils détestent les Occidentaux, les Français. Ils n'aiment pas tellement les Français, il ne faut pas croire. Mais surtout, encore moins les Anglais, ils détestent les Japonais. Et pour des raisons historiques, le sac de Nankin, en 1937, 200 000 Chinois exterminés, tués à l'arme blanche, baïonnette, par les Japonais, c'est un massacre invraisemblable. On en parle maintenant parce qu'il y a des livres qui viennent de sortir. Vous pouvez vous y référer. C'est abominable, c'est un crime. Et les Chinois ne pardonnent pas ça. Et en même temps, ça fait partie de leur propagande pour souder le pays derrière eux. Et la France a été attaquée, là, donc après le fiasco de la flamme olympique dans sa traversée de Paris. Et tout le peuple chinois était derrière ses dirigeants. C'était un moyen d'unifier idéologiquement le pays. Tout à fait, mais c'était des travailleurs. Vous savez, lors de la Grande Guerre, tous les hommes étaient au front. Donc, c'était les femmes qui sont mises à travailler dans les usines d'armement. Et on a fait appel à des coolies, donc des travailleurs chinois qui sont venus. Et les Chinois s'intéressent à ce sujet. Et il y a des livres en cours. Oui. Oui, mais c'est parce que c'est les Français qui l'ont sollicité. Et il y a notamment le poète Victor Ségalène, vous avez tous entendu parler de Ségalène. Il a vécu à Pékin, là, il a écrit tous ses livres, ses recueils de poèmes. Au début de la guerre, il a été renvoyé en Chine pour justement ramener le plus possible de ses coulis. C'est la France qui est allée les chercher, hein. Ils sont pas venus tout seuls. Ah mais non, mais on leur promettait le vivre et bien sûr ils n'étaient pas obligés d'accepter. Mais ils étaient nombreux à venir. Hein. Et il y en a certains qui sont restés en France. Et ça, c'est un sujet qui intéresse les Chinois actuellement. Ils aimeraient en savoir plus sur ces Chinois qui, plus ou moins volontaires, encore une fois, hein, plus ou moins volontaires, donc qui sont venus pour suppléer au manque d'effectifs français dans les usines d'armement notamment. Enfin, ils n'ont pas combattu. On ne voit pas pourquoi, d'ailleurs, ils l'auraient fait. Enfin, ça, c'est un autre problème.
Un fait quand même, monsieur, excusez-moi.
Je vous en prie.
Cette petite onde dans la rue qui parle. Je voudrais quand même dire quelque chose en faveur de Mao Zedong. Il est abominable, c'est un monstre, il s'agit de contre vous. Mais à partir du moment que de 1870, même avant, les Français, les Anglais, et je ne sais pas qui, ils vont au Moyen-Orient, ils prennent une équerre, ils se partagent les hommes, hein. Il a fallu quand même Mao Zedong pour que les Chinois, que chaque Chinois a sa boule de riz. Il faut quand même en mettre une chose.
Non, non.
Que je ne parle pas de la révolution de Mao Zedong, mais la révolte chinoise vis-à-vis des Occidentaux, elle est née quand même de ces domaines-là.
Oui, mais vous m'avez mal compris, monsieur. Au contraire, moi je trouve que Mao Zedong a fondé la République populaire de Chine le 1er octobre 1949. Bravo. Parce qu'il a battu Chiang Kai-shek, le régime nationaliste du Kuomintang, qui était un régime communiste, qui était soutenu à bout de bras par les Américains. Et Mao Zedong a gagné. Bon. Mais ensuite, tout de même, Mao Zedong, il y a eu le grand bond en avant, des millions de morts. La révolution culturelle, c'est quelque chose d'abominable, la révolution culturelle. Je vous parlais, il y a trois choses dont il ne faut pas parler en Chine avec des Chinois. Il faut prendre d'extrêmes précautions. C'est le Tibet, Taïwan. Personnellement, moi, je trouve d'ailleurs que Taïwan, je serais content que ça revienne un jour à la Chine. Et que, vous savez qu'au musée de Taïwan, Chiang Kai-shek, en 1949, lorsqu'il s'est réfugié à Taïwan, est parti avec la plupart des richesses donc des musées chinois, qui se trouvent au musée de Taïwan, à Taipei. Et ce musée, moi j'y suis allé, et j'en ai vu une infime partie, parce que c'est exposé, il y en a tellement de choses dans ce grand musée, c'est exposé tous les 3 mois, ça tourne. Mais si on voulait voir la totalité, il faudrait y aller tous les 3 mois pendant 10 ans. Bon, moi mon rêve, ce sera encore un rêve, ce serait que tout ça revienne à la cité interdite de Pékin, qui est une coquille vide. Et imaginez cet écrin avec tous ces trésors à l'intérieur, ce serait absolument extraordinaire. Malheureusement, je crois que je verrai sans doute pas ça de mon vivant. Enfin, j'espère qu'un jour ça pourrait se produire. Alors, votre question, vous dites Mao Zedong. Moi, je dis jusqu'en 49, très bien. Il a rendu, comme je vous le disais, sa fierté à la Chine. Mais ensuite, il y a eu le grand bond en avant. Vous savez que le grand bond en avant, c'est sur le plan économique, c'est désastreux. Ça s'est terminé par une famine colossale. Ensuite, la révolution culturelle, on commence à en savoir encore plus actuellement, mais le nombre de morts de gens qui ont été... L'élite. Tous les gens ici qui parlent quelques mots d'anglais, qui portent une cravate ou qui portent des lunettes, auraient été liquidés justement à cause de ça. Donc, l'élite. Et on parlait de 2 millions de morts, la révolution culturelle. Je lisais un article récemment disant qu'il y en aurait beaucoup plus. Et c'est un sujet sensible. Et on ne peut pas en parler avec les Chinois. Enfin, il n'y a qu'une jeune femme chinoise là-bas. Il n'y a pas d'autres Chinois. Mais moi, je suis très prudent avec eux. Parce que ils ne veulent pas attaquer Mao. Et parce que toute la classe dirigeante au pouvoir, actuellement, ils ont été gardes rouges, la plupart. C'est comme, et on ne peut pas leur en vouloir. Les Allemands, les jeunes Allemands de 18 ans qui ont été dans les jeunesses hitlériennes, comment encore une fois leur en vouloir, hein. Bon, ils ont été gardes rouges. Et ils ne veulent pas renier leur passé. Je vais raconter une anecdote. Un jour, j'ai une amie diplomate qui, je l'avais invitée chez moi à prendre un apéritif, un dimanche soir. Elle vient avec le consul général de Chine. C'est un monsieur important, il a le rang d'ambassadeur, le consul général de Chine. C'est lui qui délivre les passeports, les visas notamment. Et j'étais en train d'écrire à l'époque mon dernier livre là sur Pékin. Et j'hésitais à écrire un chapitre sur donc le printemps de Pékin de 1989, vous savez, avec la place Tiananmen, ce qu'on appelle le massacre de la place Tiananmen, et vous vous souvenez tous de cette photo de ce Chinois tout seul qui empêche une colonne de chars d'avancer. C'est extraordinaire, une photo qui restera dans les annales de l'humanité. Bon, je voulais donc faire un chapitre là-dessus, puisque mon livre s'appelle « Le roman de Pékin ». Et je rencontre un ami historien qui a écrit un livre sur Pékin d'ailleurs, Roger Darobert. Je lui dis, est-ce que tu crois que je peux écrire un chapitre? Méfie-toi, ça va pas leur plaire. Donc le consul général de Chine vient chez moi et je lui dis, est-ce que vous croyez que, comment vous réagiriez si je faisais un chapitre sur... le massacre de la pièce Tiananmen. Et il m'a dit, vous savez, le journaliste Marie Holzmann, là, qui a écrit des livres sur la Chine, pas gentil pour nous, elle a beaucoup de mal à obtenir un visa pour la Chine. Bien. Et alors, ce consul général de Chine, qui était un homme devenu ami après, c'était un gros monsieur, gentil comme tout, avec un très joli sourire, et donc on commence à parler de Mao. Il me dit, écoutez, moi je suis fils d'ouvrier. Je suis maintenant, aujourd'hui, consul général de Chine à Paris. C'est grâce à Mao. Alors il dit, ben oui, d'accord, mais enfin vous avez été garde rouge, et comme tous les gardes rouges, on vous a envoyé à la fin planter du riz au Yunnan. Comme ça vous n'avez pas pu faire d'études, aller à l'université. Il m'a répondu, c'était les plus belles années de ma vie. Alors la conversation s'est arrêtée là, vous voyez, parce qu'il n'est pas possible de discuter avec ces gens-là. Et toute la génération au pouvoir en Chine est issue, si vous voulez, de cette ère Mao. Ils n'ont pas procédé à leur déstalinisation. Et s'ils voulaient procéder à leur démaoisation, le régime s'écroule. Actuellement, devant ceux qui sont allés en Chine récemment, ont vu que devant la cité interdite, il y a encore une immense photo de Mao Tse-tung. Moi, j'étais invité il y a 2 mois, là, fin septembre, à faire une conférence à l'université Fudan, qui est la grande université de Shanghai. À ma grande stupéfaction, une immense statue colossale en béton armé, en ciment, laide comme tout, de Mao Tse-tung. Et donc, il n'y a pas eu de démonétisation, et on ne peut pas parler de ça. Alors, pour Mao Tse-tung, justement, je répondais un jour, j'étais à un banquet dans le Zhejiang, et à une table, il y avait une douzaine de personnes, et il y a un monsieur, je ne sais pas qui c'était, qui me demande, qu'est-ce que vous pensez de Mao Tse-tung? Alors lui, bon, j'en ai entendu parler. Oui, mais encore. Alors, il dit, bah, écoutez, pour moi, il y a 2 Mao Tse-tung, il y a celui qui a rendu sa dignité à la Chine en 1949, et ensuite, il y a celui qui l'a mis à genoux avec le grand bond en avant, et surtout qui l'a complètement cassé avec la révolution culturelle, car la révolution culturelle, c'était pour reconquérir un pouvoir qui lui échappait. Hein. Donc c'était un moyen détourné pour reconquérir le pouvoir, c'est-à-dire c'était un enjeu de pouvoir, rien de plus. Il n'a pas hésité à plonger son peuple dans le malheur, comme il n'est pas permis, et la cruauté, pour conserver le pouvoir. Alors je disais à ce monsieur, écoutez, pour moi il y a 2 Mao Tse-tung, il y a celui d'avant en 49, et celui d'après, là je suis réservé. Et à ce moment-là il s'est levé de table. Ce qui ne se fait jamais en Chine, parce que c'était m'offenser gravement, ça se fait, on n'enfonce pas les gens en Chine. C'est pour, parce que c'est leur faire perdre la face. Alors je me suis tourné vers mon interprète, je me dis, vous inquiétez pas, il y a des gens en Chine pour qui Mao Tse-tung n'est même pas un demi-dieu, il reste un dieu. Donc il faut faire très attention, si vous voulez. Je sais qu'à Poitiers, il y a pas mal de Chinois, hein. Notamment il y a un institut Confucius, il y a des étudiantes chinoises à Poitiers. Alors, la jeune génération trouve le moyen, ils évitent le sujet. Ils ne veulent pas en parler, ça ne nous concerne pas. C'est le passé, c'était du temps de nos parents. Et donc, ils ne veulent pas le savoir. Mais il y a un côté, peut-être que vous vous rendez compte, en Chine, il y a un côté autruche. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas savoir. On se met la tête dans le sable. Et donc, ils préfèrent oublier ça. Donc, voilà. Alors, vous m'aviez sans doute mal compris. Mais si vous regardez le livre noir du communisme, qui est paru il y a une dizaine d'années, vous avez Courtois, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Bon, vous apercevez qu'en nombre de morts, je dis bien en nombre de morts, Hitler plus Staline, c'est beaucoup moins que Mao Tse-tung. Et que le plus horrible des trois, si je puis dire, ils ont conclu que c'est Mao Tse-tung. Des trois grands tyrans, si vous voulez, abominables du XXe siècle.
Mais c'est pas là le problème, parce que René Char disait que sur sa balance, un mort, un vomi.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Si on va par là, c'est dans des fausses républiques avec des fausses démocraties, on installe des plutocraties. Comme on voit avec le cluster russe et en Europe, je ne sais pas si le nombre de morts ils sont moindres aujourd'hui par rapport à hier.
Bon, d'accord, c'est en nombre, mais en souffrance, toutes les familles ont souffert de la révolution culturelle. Mais je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient il y a 2 ans. Au mois de septembre, Jean-Pierre Raffarin a organisé au Futuroscope une grande journée consacrée à la Chine. Je ne sais pas s'il y en avait parmi vous qui étaient là. Il avait convié des ambassadeurs, des professeurs, et c'était absolument et des journalistes aussi. C'était absolument passionnant. Et donc on a parlé de la Chine, etc. Et tout le monde était très prudent, tous les intervenants pour parler de Mao Tse-tung. Ça reste un sujet tabou, trop chaud. On évite, les ambassadeurs notamment évitaient prudence diplomatique de parler de Mao Tse-tung.
Non, parce qu'après, là où il commence à être. On va, si on veut avoir le temps de discuter un petit peu autour d'un pot, il va falloir.
Voilà.
Passer. Aussi, bien sûr, en démocratie.
Merci Jean-Claude. Non, je voudrais revenir sur l'esprit de, enfin, ou la volonté de punir la France. Aujourd'hui, moi, je constate un expansionnisme, une volonté politique envahissante sur l'Afrique. Je voulais savoir si c'était guidé par cette volonté de punir ou vraiment de se.
De vous voulez dire des Chinois en Afrique.
En Afrique, oui.
Oui.
Et je voulais savoir si enfin, qu'est-ce que vous pensez de cette attitude?
C'est un tout autre problème.
Pour enlever l'influence française en Afrique.
Oh non, c'est pas du tout ça. Les Chinois se conduisent envers la France d'une manière très réfléchie, assez habile. Et bon, il faut dire que M. Sarkozy, entre nous, n'a pas toujours été très prudent, bien, ni très habile. Mais les Chinois. Ils ne vont pas s'attaquer aux États-Unis, c'est trop puissant. On ne va pas s'attaquer à l'Allemagne, même si Mme Merkel a reçu le Dalai Lama. On ne va pas s'attaquer à Gordon Brown, qui a également reçu le Dalai Lama. On frappe la France, qui est un pays moyen, moins puissant à leurs yeux que les États-Unis, bien entendu, que l'Angleterre et l'Allemagne. Et cela dit, en ce moment, on frappe en même temps l'Europe, puisque la France, M. Sarkozy, préside donc jusqu'à la fin du mois de décembre l'Union européenne. Donc c'est très calculé de la part des Chinois. Alors ça, c'est une première chose. Alors M. Sarkozy, son office, en disant « c'est pas à la Chine de régler mon agenda, si je peux bien recevoir le Dalai Lama ou le voir même, puisque ça se passe en Pologne, si j'en ai envie ». Mais les Chinois, de ce côté-là, ils sont intraitables. Et je ne dis pas que je les approuve, hein, loin de là. Alors l'Afrique, c'est tout à fait différent. Ce n'est pas du tout pour gêner le colonialisme français en Afrique, etc. En fait, c'est qu'ils ont besoin de matières premières et ils exploitent. Et beaucoup plus habilement, ils font pas œuvre de colonisateurs, c'est-à-dire qu'ils cherchent pas à endoctriner. Vous nous cédez des mines, des minerais, etc., des plantations, parce qu'il y a beaucoup de terres également. Vous avez peut-être vu que les Malaisiens vont installer en Madagascar également, et ils construisent des routes, ils construisent des résidences pour le Parlement, s'il y en a, pour le président de la République, etc. Ils veulent surtout pas se mêler de politique, ils donnent pas de leçons de morale, et ça se passe beaucoup mieux. Et ils sont en train de coloniser, je dis bien coloniser l'Afrique, d'une manière bien plus astucieuse que nous, de notre temps. Et avec des retombées économiques bien considérables. Et donc, ils envoient des colons qui vont défricher les terres, qui vont les mettre en valeur, et on se rend pas compte que à l'échelle dans 10-20 ans les Chinois vont comme ça disposer de ressources minières en Afrique mais un peu partout en Amérique du Sud également.
Oui, juste une anecdote à ce sujet. Il y a quelques 2 ans à l'époque des événements de Côte d'Ivoire, il y a eu un reportage dans un journal de la Vienne sur donc des Ivoiriens qui étaient interviewés. Et on parlait justement de commerce avec la Chine. Et ils expliquaient que pour nous, Bouygues devait construire un pont en Côte d'Ivoire. Et les Chinois, le pont était 2 fois moins cher. Et même pour le 2 fois moins cher, il y avait 2 ponts qui étaient construits. Donc je pense que les Africains n'ont pas l'embarras du choix, qu'ils prennent le plus offrant, le moins cher. C'est un problème d'économie. Et je pense que les Chinois sont plus à même de négocier, de commercer avec les pays sous-développés que nous qui sommes déjà très riches. Ils sont beaucoup plus à leur portée. Je ne sais pas, je vois ça comme ça. Que le commerce de l'Afrique avec les Chinois est beaucoup plus facile qu'avec les pays occidentaux qui sont des...
Il n'y a pas de rancœur, si vous voulez, contre les Chinois. Ils, à tort ou à raison, hein, ils ont moins l'impression d'être exploités par les Chinois que par les anciennes puissances coloniales.
Et les tarifs proposés par les Chinois le montrent
bien. Bien sûr.
Et ils ne construisent pas les cathédrales de Yamoussoukro. Ils ne proposeront jamais de construire une cathédrale de Yamoussoukro comme nous. Enfin, je ne sais pas, je dis ça comme ça, ça n'engage que moi. Alors là, on va monter en haut, boire un petit verre. Et puis, donc, il y a les livres, quelques livres de M. Brizard qui sont là, qui pourront être dédicacés. Il y a donc Le Sac du Palais d'été, un gros volume.
Alors, il y a également le roman de Pékin, qui n'est pas une histoire de Pékin, mais des histoires de Pékin. Et il y en a un livre, vous connaissez sans doute pas, l'histoire des Trois Sœurs Song. Les Trois Sœurs Song, absolument extraordinaire. Il y en a une, c'était au début du XXe siècle, qui a épousé Sun Yat-sen. L'autre a épousé Chiang Kai-shek, et la troisième a épousé l'homme le plus riche de Chine, premier ministre, le docteur Kung, et ministre des Finances. C'était un destin extraordinaire. Et la troisième, Madame Chiang Kai-shek, vous voyez, c'est une histoire presque encore contemporaine. Elle est morte il y a 5 ans, à l'âge de 105 ans, à New York. Vous voyez. Donc c'est presque encore de l'actualité.
Donc demain, il y a le salon du livre avec les bouquinistes et puis quelques livres qui sont présentés, des livres qui couvrent une partie de l'histoire de la Chine au XIXe siècle, de l'expédition de l'ambassade de McCartney en 1792-93, quand nous on faisait la révolution, on y préparait déjà le terrain, parce que ça les démangeait en 1840, ça les démangeait depuis un moment d'ouvrir des ports et des comptoirs en Chine. Et c'est comme ça que ça aboutit après à cette guerre. Et puis donc toute cette période du 19e siècle où en fait les Européens découvrent la Chine et les Chinois. Et puis jusqu'à la chute de l'Empire en 1912, la mort de la reine de l'impératrice douairière en 1908 et puis l'arrivée de Sun Yat-sen. Voilà. Donc ce que vous pourrez voir demain complété, ça vous donne des pistes de lecture pour découvrir et en apprendre, pour avoir envie d'aller découvrir la Chine sur place. C'est très facile maintenant de voyager en Chine sac à dos et puis de préparer un voyage en Chine et puis de lire l'histoire de la Chine. Parce que maintenant, c'est quand même un pays qui compte, enfin qui a toujours étonné et excité la curiosité des Occidentaux, on va dire quand même, hein, depuis Marco Polo. Et même depuis les Romains avec la route de la soie, on a toujours été un petit peu inquiétés par cet Orient mystérieux. Et donc c'est des pistes de lecture pour le découvrir et découvrir la mentalité des Chinois, qui sont pas très loin de la nôtre. Comme j'ai une anecdote, il y a un monsieur, un Anglais qui s'appelle Joseph Needham, qui est un biologiste anglais et qui a eu dans son laboratoire des Chinois. Et quand il a travaillé avec ces Chinois, il a été inquiet, il a eu la curiosité après d'étudier les découvertes chinoises. Il a passé sa vie à faire quasiment une encyclopédie des découvertes chinoises. Il faut dire que pour beaucoup de découvertes, les Chinois avaient 1500, 2000 ans d'avance sur nous. Mais après, ils se sont arrêtés, évidemment, il y a eu un petit blocage.
La et donc, poudre, la poudre, oui, la boussole, oui, le gouvernail,
le papier et tout.
Le papier, le papier monnaie.
Oui, et puis bon, ben, la porcelaine, j'en passe. La rhubarbe. Alors j'ai lu dans un. Parce que à l'époque de la guerre et où que les frontières soient fermées, les Chinois étaient très tristes à l'idée que nous n'allions plus importer de rhubarbe parce que c'était très bon pour le transit intestinal des Européennes. C'est une petite anecdote sur la rhubarbe.
Oui, ça concernait surtout les Écossais, parce que la plupart des Anglais, des militaires anglais, étaient des Écossais. Et les Écossais, qui mangent beaucoup de moutons, paraît-il, c'est très indigeste. Et la rhubarbe faisait passer tout ça. La grande menace, si vous ne cédez pas, s'il n'y a pas la paix, on s'en prend à la cité interdite.